Vous écoutez
RMC. RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous au cœur de la nuit française, 3h13 du matin chez vous. Il est ici, 21h13, on a vécu une fin de soirée extraordinaire, éprouvante émotionnellement, notamment pour un homme qui m'accompagne ce soir dans la nuit de l'after, Kevin Diaz. Salut Kev.
Bono Tatoc.
Walid est là également, salut Walid.
Salut Nico, salut tout le monde.
On est très heureux pour Kevin.
Très heureux pour Kevin.
Je suis
très heureux
pour les... Kevin et pour tous les Portugais qui nous écoutent.
Qui nous écoutent.
Tous les ressortissants portugais en France qui nous écoutent.
Exactement.
Tous les supporters du Portugal dans le monde entier qui nous écoutent.
Franchement, c'est
Franchement,
incroyable
Kevin.
Ce que vous êtes en train de faire tous les deux. Tout sera répété de ce qui s'est passé dans la, watch room là-bas à côté.
Pourquoi il s'est passé quoi?
Alors là, franchement.
Je vais dire à tous les auditeurs, notamment les franco-portugais, que mes deux camarades étaient à fond pour la Grèce.
On va faire une émission sérieuse. On
n'est
pas là pour
troller.
Non, non, Kevin. On
n'est
pas là pour raconter des choses.
Je suis très sérieux.
Une fois, on s'est levé.
Je m'assède.
Juste pour te chauffer. Mais on est très heureux d'avoir un Portugal-Espagne en 8e de finale de la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça, on est content.
On l'a un peu angoissé sur une ou deux situations croates parce que c'est le jeu.
Voilà, c'est le jeu.
Et puis surtout parce que Kovacic a fait une action incroyable. Mais sinon, on était très, très heureux pour Gonçalo Ramos et pour les Portugais.
Très heureux.
Ils font des fake news.
Il y aura tellement de choses à dire sur ce match.
Effectivement, on va prendre le temps de débriefer en long, en large, bien sûr. Vous le savez, la qualif du Portugal dans ce duel face aux Croates qui ne se relève toujours pas. On y va dans un instant. Rien tiers, ça va nous commenter les adieux, notamment sûrement de Luka Modric à la Coupe du Monde. 2-1 pour le Portugal. On reviendra également sur la victoire de l'Espagne qui a déroulé face à l'Autriche avec un grand Oyarzabal. Et puis surtout le match de Walid. Maintenant, dans la nuit, 5h du matin, française, 1h45.
On est prêt.
Encore à attendre, on est prêt.
On va le faire.
On va faire une chauffe, une préchauffe énorme dans la nuit de l'after. Suisse-Algérie, bien sûr, la compo à venir, même si. On l'a déjà, la compo d'Algérie. Walid la donnera tout à l'heure, dans quelques minutes. Venez sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, commentez. Vous êtes nombreux, je l'espère. Vous êtes quasiment 5000 en direct à 3h15 du matin. Merci d'être avec nous. C'est notre dernière ensemble, tous les trois. Walid dire prendre l'avion demain. Profitez de sa présence ici aux États-Unis. Après, il sera sur votre fuseau horaire. J'accueille Gary De Jesus, notre spécialiste football portugais. Salut Gary.
Boa noite a todos. Boa noite, Kevin.
T'es essoufflé, j'ai l'impression. J'entends ton souffle de loin.
Je vais pas terminer cette Coupe du Monde, les gars. Ça va être compliqué. Hein.
Là, si
ça
continue
comme ça.
Elle est longue.
Hein. C'est émotionnellement, ça continue comme ça. Depuis le début, c'était pas facile aussi. Hein. Donc là, c'est compliqué. Il y a les hauts et les bas, et c'est émotionnellement, c'est difficile. D'ailleurs, sur le terrain, les joueurs sont en train de rendre hommage à Diogo Jota parce que ça fait aujourd'hui un an qu'il nous a quitté. Donc, je sais pas si vous le saviez en France, mais ils portent tous un bracelet. En hommage à Diogo Jota pour aller le plus loin possible pour lui aussi dans cette compétition.
Il y a une grosse charge émotionnelle liée bien sûr à la disparition de leur coéquipier Diogo Jota il y a un an, liée également simplement à l'envie d'aller au bout dans ce mondial, liée au destin de Cristiano Ronaldo dans ce mondial. Il y a plein de thèmes qu'on va évoquer. Bien sûr, on va écouter Gonçalo Ramos, buteur héroïque de la qualif ce soir pour le Portugal. C'est parti.
Okay, bah, à la spécial, ma compétition est spéciale.
C'est une compétition spéciale, c'est spécial. Mais c'est vrai que pour ceux qui me connaissent, moi je suis toujours présent dans les dernières minutes. C'est pas la première, ce sera pas la dernière fois. On sait que jusqu'aux dernières minutes, on peut appeler Gonçalo Ramos. C'était quoi le message? C'était quoi le message de la part du coach? Est-ce que c'était de transformer la pression? Ce qui est important, c'est de dire que cette équipe, elle est en train de grandir dans cette compétition. C'est une compétition qui est courte. Mais pour nous, ça ne l'est pas. C'est beaucoup de travail. On est ensemble. Ça fait un moment qu'on joue ensemble et ça aussi, ça compte. C'est la force de notre groupe. Et à partir de maintenant, c'est se battre ou mourir. Et on va tout donner. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le prochain match? Notre identité, c'est d'aller toujours après la victoire. On n'est jamais mort, on est toujours là.
Voilà la réaction de Gonçalo Ramos, traduit impeccablement par Kevin. Tiens, Aurélien Tiercin qui suit également, qui a commenté ce match. Aurélien, raconte-nous les images que tu as vues. Je vois que le réalisateur s'est aussi attardé sur Luka Modric, notamment. Est-ce qu'Aurélien est avec nous, Aurélien Tiercin? Bon, il n'est pas avec nous, il viendra dans un instant, lui qui commentait ce match.
Tellement d'ambiance.
Il y a quelques secondes. Stade. Bon, les gars, je veux quand même qu'on commence sur, parce que là, ça s'agite également sur le chat, hein, sur la dernière action. C'est de l'égalisation refusée pour la Croatie. On va expliquer concrètement ce qui s'est passé. Il y a une confusion énorme sur dehors du terrain, évidemment. Hors-jeu, pas hors-jeu. Est-ce que le ballon a été touché ou pas? Ce qui met en hors-jeu croate, en l'occurrence Gvardiol. C'est très dur de se prononcer là-dessus, Walid. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que ce ballon a été dévié ou pas par un coéquipier de Gvardiol? Pour l'instant, on n'a pas l'image qui nous affirme le contraire.
Ah, sur le dernier sur le dernier ralenti, moi, je ne vois pas le croate toucher le ballon.
Après, c'est pas touché, il n'y a pas hors-jeu et le but est validé.
Exactement. Donc, j'ai une incompréhension là-dessus. Après, on va faire confiance à l'arbitre et à ceux qui accompagnent l'arbitre. Peut-être qu'il y a une puce dans le ballon. Peut-être qu'il y a un truc.
Il y a une puce dans le ballon.
Voilà. Donc, s'il y a une puce dans le ballon, on va faire confiance à l'organisme qui prévaut la décision. Et donc, on va faire confiance comme pour la goal line technologie, comme pour le hors-jeu. Mais c'est vrai que moi, sur le dernier ralenti, qui est vraiment très très clair, je ne vois pas le ballon touché par le croate. Mais moi, je respecte la décision, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'était en tout cas un cas très très chaud jusqu'au bout. Et ça a fait partie du suspense et de ce match très très étrange à analyser et complètement dingue.
L'image va être scrutée, vue, revue, analysée. Ça ne changera rien au score final, bien sûr, Kevin.
Non, mais de toute façon, là, il y a une image que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de la BBC où au moment où le ballon est touché, il y a en effet la puce qui vibre et on voit la petite courbe qui bouge. Il peut y avoir une autre interrogation, c'est ceux qui ne comprenaient pas pourquoi, étant donné que le Portugais touchait le ballon derrière le Croate avant que le joueur hors-jeu le récupère, ça ne compte pas. C'est-à-dire que si tu touches le ballon sur juste un rebond ou sur juste une touche qui semble involontaire, ça ne compte pas pour remettre en jeu l'adversaire.
Ça, c'est autre chose.
Mais il y avait aussi cette possibilité.
T'as raison. Alors, sur le réseau, effectivement, il y a une sorte de diagramme officiel qui raconte qu'il y a une petite ondulation dans la trajectoire du ballon qui raconte que le ballon aurait été légèrement dévié par Matanovic.
Sinon, le ballon
est contact et voilà.
Donc, pas but. Pas but.
Donc
pas but. Sujet clos.
On va pouvoir avancer forcément ensemble, même si certains vont peut-être vouloir polémiquer. Donc, le Portugal qualifié, beaucoup de choses à dire. On va parler de Cristiano Ronaldo, on va parler notamment de Bruno Fernandes qui est sorti à 102e minute de jeu. Qu'as-tu pensé globalement du Portugal, Walid?
Bah, j'ai vu un Portugal à deux visages. Moi, j'ai vu un Portugal avec une première mi-temps plutôt cohérente, avec l'initiative du ballon. De toute façon, on le savait, face à une équipe croate qui est souvent dans l'adaptation. Le Portugal a impacté, a eu deux, trois situations intéressantes avec Bruno Fernandes notamment, avec un Nuno Mendes et un Leao qui ont essayé de faire la différence. Mais ils sont un peu endormis en n'ayant pas concrétisé les temps forts sur la première mi-temps. Et je trouve que sur la fin de première, on a eu la Croatie qui a repris un petit peu le contrôle du jeu au milieu de terrain. Et puis surtout en deuxième mi-temps, moi j'ai vu une Croatie nettement supérieure au Portugal, même s'il y a le but hors-jeu refusé, but hors-jeu génial au passage, refusé de Cristiano Ronaldo, le penalty qui donne l'égalisation du Portugal. J'ai senti quand même la Croatie supérieure en deuxième mi-temps avec des énormes occasions et avec un Diogo Costa qui a été énorme. Et puis derrière, il y a eu un changement tactique très très bizarre de la part de Roberto Martinez, on en parlera après, où il est passé en 4-4-2 avec la sortie notamment de Bruno Fernandes et de Vitinha, ce qui a complètement déséquilibré le Portugal. À ce moment-là, j'avais très très peur parce qu'il y avait des grosses occasions croates. Et derrière, il a bien réagi avec cette sortie de Cristiano Ronaldo et l'entrée de Ramos et de Neves notamment, qui a permis à rééquilibrer un peu tout ça en 4-3-3. Et t'as ce but incroyable du super sub Gonçalo Ramos sur ce très beau centre de Rafael Leao. Donc voilà, match je trouve avec plusieurs chapitres, un premier chapitre portugais et un deuxième chapitre je trouve croate. Mais le Portugal a été plus efficace et ils ont été chercher cette qualification qui leur ouvre des perspectives différentes.
Pour moi, le moment de cette soirée, le moment de cette Coupe du Monde, voire le moment de l'ère Martinez, c'est au moment où il décide de sortir.
82e.
Voilà, il décide de sortir Cristiano Ronaldo pour moi. Pour moi, c'est là.
Et Bruno Fernandes 20 minutes avant aussi.
Ouais, bon, Bruno.
C'est autre chose, mais quand même.
Bruno Fernandes, c'est autre chose. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment mérité, mais en tout cas, de sortir Ronaldo, peu importe qu'il soit dans un bon match ou pas, serait même ça, qu'il est marqué ou pas, ça change absolument rien.
Je suis d'accord.
Il y a personne qui pensait moi autour de la table, je vous disais, faut absolument qu'il sorte Ronaldo, faut qu'il sorte Ronaldo pour le symbole.
Nous on disait qu'il allait jouer la prolongation, voilà. Il serait là pour les tirs au but.
Je le disais, je sais pas ce qu'on pense Gary, mais je le disais, pour moi il fallait qu'il le sorte parce que même si t'es éliminé, pas grave, il aura tenté le coup. Au moins juste de remplacer un joueur qui voilà, qui n'a pas les jambes pour jouer forcément 80 ou 120 ou 90.
Wayne Rooney il dit l'inverse à un moment du changement à la télé, il dit c'est inadmissible de sortir Ronaldo et Bruno Fernandes, le meilleur passeur, le meilleur buteur. C'est voilà, c'est la famille, t'as raison.
Et moi pour moi c'est pour moi pour finir, c'est le moment de la Coupe du Monde du Portugal. Et moi, même si ils sont éliminés contre l'Espagne, au moins il aura fait ça. Ça paraît dérisoire, mais pour moi, ça ne l'est absolument pas. Pour le pays, ça ne l'est absolument pas. Et il fallait le faire. Et comme par hasard, le Portugal qui va arracher un but sur un but de Gonçalo Ramos libéré. Alors, par la sortie et par les...
Évidemment, gros plan à la 82e quand Cristiano sort du terrain. Il a pas masqué sa déception. Elle était immense, profonde.
C'est pas le genre de la maison.
Mais il s'est repris quand même. Il a quand même fait la collade à Roberto Martinez. Il n'a pas pleurniché. Il a compris. Il est sorti, donc c'est possible.
Mais oui. Mais c'est ce que je me tuais à dire depuis le début de cette compétition. C'est que c'était pas Cristiano qui faisait. Il a un caractère difficile à gérer, etc. Mais c'est gérable. Aujourd'hui, Roberto Martinez a pris les décisions qu'il fallait prendre. Il a pris la décision qu'il fallait prendre. Et on l'accusait. Je l'accusais justement en avant-match de jamais prendre de décision forte. C'est vrai qu'il avait pas mis Bernardo Silva c'était un choix fort déjà depuis le début de la compétition. Là, il sort Bruno Fernandes et la chose qu'on pensait inatteignable, c'est-à-dire qu'il sort Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai que, comme je suis d'accord avec Kevin, il va y avoir un avant et un après dans l'ère Martinez, parce que c'est la première fois qu'il le fait dans ce type de compétition. Et en plus, Gonçalo Ramos a répondu avec ce but. Donc ça fait que confirmer ce choix-là, et pour la suite, je serais pas étonné de le revoir sortir. Il va certainement débuter le match, ça c'est une certitude, mais sortir peut-être plus tôt, parce que là il fait beaucoup de changements, il a fait changer toute l'équipe, il a déjà changé des gros joueurs à la mi-temps, à la 60e, il fait quand même, il prend des décisions importantes avec des joueurs importants dès la mi-temps, 60e. Je pense que ça pourrait arriver avant même.
Quadruple changement à l'heure de jeu quand même.
Ça ressemble pas à grand chose en soi, mais au moins il tente quelque chose, quoi.
Bon, le Barnes sort, Vitinha sort, Cancelo sort.
C'est ça, il fait des retouches après, il fait des retouches qui étaient nécessaires avec l'entrée de Gonçalo et justement de
Walid. C'est les retouches qui ont tout changé vraiment.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, dans tous les débriefs qu'on a fait du Portugal, on n'a jamais dit que Ronaldo devait pas démarrer parce qu'il a quand même une contribution mentale, psychologique sur cette équipe. Mais c'était surtout la gestion du temps de jeu de Cristiano Ronaldo dans une compétition. Et on l'avait dit contre l'Ouzbékistan, pas normal qu'il ne sorte pas normal contre la Colombie qu'il ne sorte pas non plus. Et là, quand on voit qu'il y a ce choix fort de sortir Cristiano Ronaldo et que derrière, c'est récompensé par le super sub Gonçalo Ramos, je pense que ton groupe sort grandi dans ton management et surtout, c'est récompensé par un choix pertinent. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que Ronaldo qui sort. C'est que, en fait, la première salve de changement de la part de Roberto Martinez, elle est impulsée parce que tu es mené au score. Donc elle est à 1-0. Juste après les changements, t'as ce penalty avec cette grosse erreur du Croate. Sauf qu'à ce moment-là, t'es totalement déséquilibré et un partout, tu te rends compte tout de suite que, attends, mais pendant 30 minutes, ils vont jouer en 4-4-2 comme ça, avec Gonçalo Ramos en 19,5 qui va tourner autour de Ronaldo et avec un milieu de terrain Neves, Bernardo Silva, où à la perte, tous les petits profils croates vont pouvoir se régaler. Suzic, Kovacic, et tu sentais qu'à chaque fois qu'ils avaient le ballon, les Croates, ils étaient dans un fauteuil, ils pouvaient faire avancer le jeu. Et c'était criant. Je pense que tout le monde qui a regardé le match à ce moment-là, il se dit, mais attends, comment ils vont faire le Portugal? Et là, à ce moment-là, Diogo Costa sort des énormes parades, il y a un vrai temps fort de la part de la Croatie, et là, au-delà du choix Ronaldo, tu dis que tactiquement, Roberto Martinez doit intervenir. Ouais, et là, il intervient, et il intervient en sortant Ronaldo.
Qu'il allait sortir Léo.
Voilà, en sortant Ronaldo, et en mettant Gonçalo Ramos en neuf, et en faisant rentrer Ruben Neves pour solidifier son milieu de terrain. Et derrière, au-delà du choix tactique, il y a le choix tactique et il y a le choix de sortir Ronaldo. Et à la fin, tu es récompensé avec ce but de Gonçalo Ramos. Donc c'est parfait en fait, c'est ce qu'on demande à cette équipe du Portugal. C'est ce qu'on demande aussi à un sélectionneur du Portugal qui ne doit pas être pieds et poings liés jusqu'au bout s'il doit faire des choix tactiques. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
On est d'accord, mais c'était dans les mondes du sélectionneur.
Je te rends la parole dans un instant. On écoute Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal.
Le message, c'était de dire qu'on était tous prêts.
Bon,
le mondial, il commençait aujourd'hui. Jouer avec le cœur, jouer avec fierté, représenter le maillot du Portugal, et c'est ce qu'on a fait. On a montré de la personnalité après avoir encaissé un but. La Croatie, c'est une équipe spéciale. Pour le père de Ricky Carvalho, pour Diogo Jota, on a joué pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur maintenant? C'est la satisfaction, la fierté, commencer à récupérer. Parce que le prochain match, il arrive très tôt.
On va parler de la suite. Hein. Quelle ambition peut nourrir le Portugal? Beaucoup, vous êtes très sceptiques hein, sur la suite. Il y aura l'Espagne, bien sûr, qui est impressionnée.
Le Martinez, il parle une espèce d'espagnol portugais.
Ah bon,
c'est un portugais.
C'est facile à traduire.
C'est
facile?
Ouais.
On dit pas pronto, il a pas dit ça, maman.
Il fait un portugnole. Mais il y a le portugais d'Ancelotti, il a encore plus pépite.
Matanovic, il y a égalisation.
Au passage, les Croates ont eu 3 buts hors jeu refusés.
Le Portugal en a eu un hors jeu.
Cristiano d'ailleurs.
Mais pour en revenir sur ce match, moi il y a quand même des joueurs qui m'ont agacé hein, pour dire la vérité. Il y a quelques noms d'oiseaux qui ont fusé
pendant le match. Les 3h du matin, tu peux aller.
Parce que moi Léao, avant de faire sa passe des magnifiques, il est tellement agaçant, mais c'est le joueur que je ne supporte pas depuis le début de sa carrière. Il a tellement de talent, mais c'est tellement sur courant alternatif, voire c'est clairement pas assez. C'est pareil, c'est un football où il va tricoter pour rien, il va jouer arrêté, alors que c'est une fusée quand il est lancé. C'est tellement un gâchis, franchement, moi ça m'insupporte. Par contre, il a le talent de t'envoyer un missile là, qui fait quasiment barre transversale rentrante. Il a le talent pour t'envoyer un centre parfait, même si Gonzalo Ramos fait un monstrueux travail derrière. Donc, disons bravo à Martinez de l'avoir maintenu. Et après, il y a pour moi un Nuno Mendes qui m'a déçu parce que je sais que c'était cher à coach Courbis. J'ai vu aussi un échange cet après-midi entre Roy Keane et Neville sur la télévision anglaise qui parlait du fait qu'aujourd'hui les latéraux ne sont plus là pour empêcher les centres. Mais pour moi, le but croate, mais c'est pas possible de laisser centrer comme
Mendes,
ça.
Mendes, il est juste à 5 mètres.
Il est à 5 mètres. Après, il y a Léao qui vient pas aider non plus.
C'est une association de malfaiteurs. Cancelo, c'est la même chose derrière, de l'autre côté.
Donc c'est bien beau d'avoir des contre-attaquants, mais il y a un moment, faut défendre. Et donc, le Portugal a mal défendu sur ce but, a mal défendu sur 2-3 transitions. Par contre, bravo par contre à Costa, parce qu'il nous a fait un match aujourd'hui. Moi, j'ai toujours aimé ce gardien depuis ses débuts à Porto.
Il a été monstrueux. Parce que le momentum de la Croatie en deuxième mi-temps là, entre les parades sur Kovacic, sur Suzic, etc.
Vous le verrez peut-être bientôt.
Pourquoi?
Parce qu'il y a des contacts avancés avec le Paris Saint-Germain.
Ah bon? Ok. D'accord. Ok.
Mais j'avais pas ça. Je l'avais pas.
Ok. C'est une info. On savait pas.
C'est bossé.
Il a prolongé en novembre dernier pour augmenter sa clause libératoire et pour faire descendre sa clause libératoire. Et là, c'est
combien sa clause?
Elle est passée à 60 millions.
Oui, bon, c'est raisonnable.
C'est raisonnable. Ouais, en tout cas, il a fait un énorme match. Par contre, il y a quand même une indirecté qu'on doit évoquer et qu'on a connue, que moi j'ai critiqué aussi sur certains matchs par rapport au système de jeu proposé par son coach. Mais quelle résilience et quel mental Gonzalo Ramos.
Non, oui,
moi je suis désolé, mais le super sub qu'il est, moi, depuis le début de la compétition, il a pas une minute. Quand on dit souvent rentabiliser les minutes, mais rentabiliser les minutes, c'est ce que fait Gonzalo Ramos à chaque fois qu'on l'appelle. Et moi je trouve que même son discours à la fin du match, quand il dit vous avez besoin de Gonzalo Ramos pour 2, 3, 4, 5, 10 minutes, je suis là. Et moi, je suis complètement fan de ce discours parce qu'il n'y a pas que les paroles, il y a les actes. Et là, c'est un but. Parce que cette saison, quand même.
Il est extraordinaire.
Non, mais en super sub, Tottenham, t'as le match contre Marseille, t'as le match là contre la Croatie. Et ça, c'est ce qu'on demande aussi
en Ligue 1 aussi.
Sortie de banc.
Et puis surtout, tu rentres à la place de Cristiano.
Tous les doutes qu'on avait sur Gonzalo Ramos, ouais, ben on voit bien quand même que Gonzalo Ramos, quand tu lui fais confiance ou quand tu lui donnes, eh ben il te rend, c'est un peu ce que je disais souvent, tu lui donnes tes 100 euros, il te rend 120. Et le lendemain,
c'est pareil,
exactement, demain c'est sur la table de nuit et dans l'enveloppe et il s'en va.
Le Milan va profiter.
Et merci de m'avoir prêté.
T'as raison. Maintenant, sa vraie carrière commence entre guillemets quoi. Il sera sûrement dans le 11 titulaire au Milan.
Oui. Ça c'est un rôle différent.
Comment il va assumer ce rôle-là?
C'est un rôle différent, c'est pour ça que moi
j'ai fait trois trucs quand même.
Oui, bien évidemment, mais c'est pour ça que moi je fais la distinction entre le rôle de titulaire au Paris Saint-Germain et le rôle de super sub. Mais là, avec le Portugal, avec toute la pression qu'il a, où tous les pros, CR7, bah dès qu'il joue, il est épié. Est-ce qu'il va être bon? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est assez bon? Est-ce qu'il est assez fort? Et bah là, sincèrement, alors, ce soir quand même, c'est le grand gagnant de cette.
Il a été associé pendant 20 minutes, hein, Gary avec Cristiano Ronaldo.
Non, il on l'a pas vu.
À la 62e.
Il était en 10, il joue en 10.
Et il est rentré il est sorti à la 82e, Cristiano Ronaldo. C'est inimaginable ça. Contre l'Espagne, j'imagine.
Non, mais attention, parce que moi, contre l'Espagne, je vois bien. Alors, ce n'est qu'un sentiment. Je vois bien une Zidane 2006. Tu vois, genre les Espagnols qui veulent mettre Ronaldo à la retraite.
Vamos a jubilar à Cristiano.
Voilà. Et je vois bien Cristiano te mettre un petit match. Je sais pas. Parce qu'encore aujourd'hui, même si je l'ai, c'est même pas que je l'ai critiqué, parce que je pense que c'est même plus de la critique, c'est du bon sens. Moi, je ne voulais pas le voir autant dans cette Coupe du Monde. Moi, je l'aurais carrément mis remplaçant, hein, je le dis. Maintenant, il est titulaire. Bon, on va faire avec jusqu'au bout. Mais le but qu'il met, et puis comme voilà, Jimmy qui me dit dans l'oreille l'orgueil du champion, tout simplement. Mais le but qu'il met, même s'il est une épaule hors jeu,
il est magnifique, le but.
Exceptionnel. Le contrôle comme ça, porte-manteau, le petit enchaînement.
Le relâchement sur le penalty, ultra décisif, ultra important.
Ouais, le relâchement.
Le plus important de sa carrière, surtout.
Celui-là, il est
bien au milieu, bien placé. En première mi-temps, je le trouvais un peu déconnecté du reste de l'équipe, une équipe qui fonctionnait plutôt bien. Mais par contre, le début de deuxième mi-temps, il met ce but-là qui est fantastique, qui se joue à un cheveu. Et puis le penalty, il faut le mettre à ce moment-là et avoir la responsabilité de le prendre, parce qu'on n'oublie pas, mais contre la Slovaquie, il avait raté un penalty en huitième d'euro sur le dernier exercice international. Donc ouais, pour le coup, il a fait son boulot, il a fait son job. Maintenant, il faut voir sur la suite de la compétition, parce que moi, je suis d'accord avec Kevin. J'ai un pressentiment. Pour moi, le Portugal peut avoir plus de mal face à la Croatie que face à l'Espagne. Je m'explique. Ils les ont joués notamment en Ligue des Nations l'année dernière. Mmh. Ils les avaient mis en difficulté. Ils avaient gagné en finale de Ligue des Nations avec Ronaldo au tir au but, ou notamment Nuno Mendes. Avait fait un énorme match sur la mini Yamal, parce qu'ils aiment ces matchs-là. Ouais. Les Portugais, ils ont cette qualité-là pour face aux rivaux espagnols, montrer qu'ils ont cette qualité. Contre des plus petites équipes où là, il faut faire un peu plus le jeu, il y a une équipe qui s'adapte plus à toi, et surtout quand ils sont favoris, je trouve que le Portugal a un peu plus de mal. Donc c'est pour ça que ça va être un test hyper important. Alors pour moi, l'Espagne reste favori, l'Espagne reste au-dessus. Demain, tu me dis, l'Espagne sur 10 matchs passe 7 fois, j'ai aucun problème là-dessus. Mais là, ça va être le jour J, et ça va être pour moi un prisme totalement différent, psychologique, de la part du Portugal. Et ça va être aussi intéressant de voir comment Roberto Martinez va mettre en place son équipe. Est-ce qu'il va avoir un choix tactique? Est-ce qu'il va, je sais pas moi, mettre un faux numéro 9 ou mettre Ramos, ou on n'est pas à l'abri aussi d'une petite facétie tactique de la part de Roberto Martinez.
Pour moi, la facétie,
il y a des surprises à chaque match.
Ronaldo ne doit pas jouer plus de 60 minutes contre l'Espagne.
Mais ça y est, mais voilà. ça
c'est 60 minutes, c'est match. Tu mènes pas.
Ça va dépendre du scénario, Kevin.
Non, tu mènes pas, tu sors.
Ça va dépendre du scénario.
Non, tu mènes pas, faut sortir.
Là, Gary, j'ai quand même le sentiment que ça y est, Roberto Martinez s'est enfin affirmé, parce que on partait sur une prolongation. Il était prêt à se passer d'un Cristiano Ronaldo, malgré son statut, la légende, sa relation personnelle avec lui, l'avenir tête de Roberto Martinez en Arabie Saoudite dans le club de Cristiano. Il était prêt à se passer de lui pendant quasiment 45 minutes. Il s'est affirmé, Roberto Martinez, ce soir.
Oui, c'est pour ça qu'on parle d'un... Moi, je pense qu'il va y avoir un avant et un après ce changement-là. Mmh. Parce qu'enfin, comme tu dis, il s'est affirmé. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Il fallait que ça vienne de lui. Il fallait que ça vienne de lui, en tout cas dans cette sélection, de sortir Ronaldo plus tôt. Ça pouvait pas... c'était pas Cristiano qui allait se sortir lui-même. De toute façon, son caractère, il est fait.
Il fait en sorte
qu'il soit prêt tout le temps. Oui, mais c'est pas grave. Là, il est
non,
sorti,
c'est
pas grave, il était pas
ouais.
content.
Voilà, il était
pas
champion,
content.
C'est un champion,
il a fait la moue de seconde.
J'ai adoré sa réaction.
Oui, il est parti se rasseoir.
Il est parti se rasseoir,
mais après, il était là avec tout le monde. Il a toujours été comme ça. Cristiano, c'est un joueur d'équipe, malgré ce qu'on peut dire parfois. C'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui soutient. C'est un des leaders de cette équipe. Bon, Roberto Martinez a sorti tous les leaders de l'équipe avant de le sortir, quasiment. Mais il a quand même fini par le sortir. Et ce que disait, je veux revenir sur ce que disait Walid juste avant, sur le fait qu'on était plus performant contre les équipes dites plus fortes, entre guillemets. Ça, c'est depuis toujours. On a ce complexe d'infériorité au Portugal, où à chaque fois qu'il arrive un gros, à chaque fois qu'il arrive une équipe de France, à chaque fois qu'il arrive une équipe comme l'Espagne, il faut y aller pour sortir le Portugal. Ça finit au tir au but, ça finit en prolongation, ça finit un but d'écart. accroché, etc. Et d'ailleurs, la Croatie, c'est un peu le cas aussi. C'est toujours une équipe très compliquée à jouer, qui s'accroche tout le temps dans ce genre de match-là. Et le Portugal, quand il a ce rôle-là de devoir faire le jeu, de devoir être dominant, etc., on a toujours eu plus de mal. Et de toute façon, c'est dans les gènes du football portugais de souffrir. Quand ça marche, il y a toujours de la souffrance.
C'est jamais dans la faute. C'est les mêmes dans les gènes de la culture.
Exactement. Exactement, c'est nos qualifs pour les grosses compétitions, ça a toujours été dans la difficulté, ça a toujours été à l'arraché. Et quand on a fait des performances, c'était pareil, ça a toujours été à l'arraché au caractère.
Et surtout l'Espagne-Portugal, faudrait regarder un petit peu sur les dernières confrontations. Même quand l'Espagne s'en sort, c'est toujours très compliqué. Hein.
Ah bah oui,
moi je me rappelle de l'Euro ou de l'Euro 2012 ou même de la Coupe du Monde. Il y a toujours eu la grande Espagne, c'était des tirs au but ou des prolongations. Ou des victoires étriquées, ou le Portugal qui pouvait aussi leur faire mal. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un prisme totalement différent. Psychologiquement, ça va être intéressant de voir.
Il y avait l'ouverture de la Coupe du Monde 2018. Le
3-3, avec le triplé de Ronaldo.
Ouais, c'est ça. Il y avait l'année dernière en Ligue des Nations, comme tu l'as dit aussi plus tôt. Ouais, moi, il y a un parallèle à faire entre les Portugal-Espagne et les Portugal-France dans l'histoire, même si contre la France ça a moins bien marché que contre l'Espagne.
Je vous donne les 6 derniers matchs, hein, 7 derniers matchs Portugal-Espagne. Hein. Donc, sur Coupe du Monde 2018, 3 partout, on en a parlé tout à l'heure. Match suivant, match amical 0-0. 2021, 0-0. 2022, 1 partout. Sur une phase de groupe de la National League. 1 partout ensuite. 1-0, Espagne. Et puis, tu l'as cité tout à l'heure, la finale Ligue des Nations.
Ouais, mais tu peux même.
T'es sur 4 matchs nuls et 2 victoires, 1-0.
Tu peux même parler de la Coupe du Monde 2010. La Coupe du Monde 2010, où l'Espagne passe au tir au but 0-0. Ouais, dans un match qui était très, très compliqué pour les Espagnols. À ce moment-là, c'est peut-être leur match le plus dur avec la Suisse quand ils avaient perdu sur le but de Gelson Fernandez, mais ça n'a jamais été simple. Après, moi je reste persuadé que l'Espagne est bien meilleure, que l'Espagne est favori et que
il y a plein de
choses. Bien sûr, collectivement. Maintenant,
parce que les Portugais individuellement ils sont meilleurs.
Bien, oui,
l'Espagne a un meilleur collectif.
Oui, meilleur. Après, est-ce qu'ils le montrent dans l'équipe du Portugal,
je te parle pas forcément dans l'équipe.
Mais parce que moi, pour l'instant, on est dans l'angélisme un petit peu et l'émotion du Portugal et on est du côté, on est dans le côté positif et c'est intéressant d'avoir un peu notre sincérité à l'instant T. Maintenant, il y a aussi eu des choses dans ce match-là qui m'ont fortement dérangé du côté.
On peut parler des Parisiens de Portugal, par exemple.
Et notamment sur les individualités, parce que on a parlé beaucoup.
Dis-le, vas-y. Tu sais où tu veux en venir.
Non, mais parce qu'on sait très bien que Kevin a ses têtes et qu'il met en avant dans cette équipe du Portugal. Et il y a des têtes aussi qui protègent. Mais moi, Bruno Fernandes a encore fait un match fantomatique. D'accord? Fantomatique.
Comme les autres.
Et c'est bien de parler de Cristiano Ronaldo, oui. Mais comme les autres. Sauf que t'as cité les autres, mais t'as pas cité Bruno Fernandes. Je trouve ça étonnant.
T'as pas tous cité.
Non, enfin, t'as cité.
Moi, Vitinha, je suis dans ton équipe Walid pour Bruno Fernandes.
Vitinha, je l'ai trouvé très latéral et avec un gros manque d'impact. Et il fait partie de ces joueurs parisiens qui, sans Papaloucho, sur ce début de Coupe du Monde ont des difficultés et donc voilà, ça aussi il faut le dire.
Je pense que Bruno Fernandes serait meilleur avec Gonzalo Ramos par exemple.
Peut-être, en tout cas on l'espère, mais la réalité c'est qu'à un moment donné Bruno Fernandes, si aujourd'hui on se dit que Bruno Fernandes a besoin du copain Ramos pour briller au Portugal sur les 6 dernières années, où tu parlais du 3-3 par exemple, Gary. Bah sincèrement, moi je me faisais la réflexion dans les matchs là, parce que j'ai une bonne mémoire, j'ai beaucoup de défauts mais j'ai quand même une bonne mémoire.
Aussi beaucoup de qualité.
T'as assez peu de défauts. Allez.
Et je crois que le 3-3 où il avait fait un super match Bruno Fernandes, le match de poule, avec l'équipe du Portugal, j'ai pas 3-4 matchs où il prend sur ses épaules cette équipe et qui l'a fait gagner.
Oui, on en parlait, c'est pareil pour Bernardo Silva.
Ah oui, et à un moment donné, on a le droit de le dire,
mais c'est parce que ce collectif est toujours un peu galvaudé. Ouais.
Bah oui, mais d'accord, mais il y a un moment, le pare-feu Ronaldo, moi je suis le premier à y aller, Kevin, mais il y a un moment, Bruno Fernandes, il fait une saison fantastique avec Manchester United.
Merci,
d'accord, il a pas les meilleurs joueurs du monde à côté, et pourtant,
pourquoi il le fait pas avec la sélection?
Il a pas les clés.
Mais moi j'en ai rien à faire des clés.
Du camion.
Il doit faire bien mieux.
Dans le
il doit
faire bien mieux.
Vas-y, après Kevin.
Tu vois comment il protège? C'est fou. Oui, le deux poids deux mesures avec ses chouchous, c'est dingue en fait.
Il y a quelques incohérences. C'est un très bon consultant. L'homme, il est comme ça aussi. Mais il y a deux trois incohérences qui le rendent humain, tu vois.
Laissez Gary et puis après défendre Bruno.
Non, moi je suis pas d'accord avec Kevin sur le fait que c'est un des leaders, Bruno Fernandes. On peut pas lui donner plus que ce qu'il a aujourd'hui. Il a commencé tous les matchs depuis le début de la compétition. Il est quasiment intouchable dans cette équipe. Il en fait pas assez. Point. Pour moi, c'est une évidence. Il y a clairement un manque par rapport au Bruno Fernandes qu'on voit à Manchester et celui qu'on voit en CLSA. Et c'est pas d'aujourd'hui. Moi j'ai jamais vu un grand Bruno Fernandes avec la sélection, jamais. Et je suis pareil pour Bernardo Silva.
Moi je ne dis pas qu'on a vu un grand Bruno Fernandes. Je dis que le grand Bruno Fernandes que j'ai vu au Sporting, il avait les clés du camion et c'est lui qui conduisait, qui garait et qui le se mettait où il veut dans la ville.
Parce que c'était le leader, la tête de gondole.
Au début, c'est pas possible au Portugal. Attends, mais au début. À Manchester, c'était un peu pareil. Il n'avait pas vraiment toutes les clés. Il y avait des critiques, etc. Depuis la 2-3 saisons qu'il a les clés, là, il est extraordinaire. Et
dans une équipe moyenne.
Ouais.
C'est la lumière. Ça reste le très haut niveau quand même. Pour la Coupe du Monde, ça va. Après, tu joues en Première Ligue. Oui, t'es le meilleur passeur de la Première Ligue. Je pense que si on te laisse les clés du Portugal, mais je dis pas qu'il faut.
Après, c'est la lumière dans une pièce qui est très sombre quand même.
D'accord.
Qui fait troisième de Première Ligue.
Non, mais sur les dernières années, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de.
D'accord, mais c'est quand même le meilleur joueur,
le meilleur passeur de Première Ligue,
le meilleur joueur du club. On va faire un cadeau sur Bruno.
Mais c'est exceptionnel Bruno Fernandes qu'il fait cette année avec Manchester United.
Maintenant,
mais c'est pas un très grand joueur s'il n'arrive pas à s'adapter ou s'il faut
un contexte. C'est pas le seul qui brille avec son club, mais pas avec sa sélection.
Vas-y, parce qu'on parlait notamment de la projection avec l'Espagne. Tu vois, l'Espagne, il y a beaucoup de joueurs qui sont peut-être moins forts en club, mais qui sont beaucoup plus forts en sélection. À l'image d'Oyarzabal, qui a encore fait un super match contre l'Autriche. Et si tu veux te projeter dans cette compétition, on parle de Cristiano Ronaldo, mais il va falloir que les autres individualités haussent leur niveau de jeu. Si pour toi, c'est pas le cas, tu te mets le doigt dans le nez aujourd'hui.
Je te pose une question. En état actuel des choses, avec ce qu'on voit,
Vitinha, c'est la même chose.
Alors justement, en état actuel des choses,
Nuno Mendes, c'est la même chose.
Que peut espérer
Et Cancelo, c'est la même chose.
Le 8e sera un match particulier parce que c'est l'Espagne. La rivalité, on la connaît de sélection assez proche, hein, malgré la démonstration collective espagnole ces dernières années. Que peuvent espérer les Portugais dans ce mondial? Si on va très très loin.
Moi, je pense que les perspectives du. Les perspectives du Portugal changent ce soir. Pourquoi ? Parce que c'était le match à ne pas perdre.
C'est sûr.
Moi, je vois le truc comme ça. C'est-à-dire que je respecte ces joueurs-là qu'on vient de citer, qui sont décevants, mais qui, sur certains matchs, peuvent te montrer qui est qui. Et le match, moi, je pense que c'est même pas la France. Moi, le match pour les Portugais, c'est l'Espagne. Moi, de par l'histoire qu'a le Portugal, maintenant, ça c'est petit A, petit B, c'est je vois Roberto Martinez qui a des lacunes, je vois cette équipe-là qui est très fébrile défensivement, moi Ruben Dias Vega, je confie pas mes enfants le soir après 22 heures pour les garder, à un moment donné, c'est genre Upamecano Saliba, ma famille, mes enfants, il y a pas de souci, j'ai confiance, même le coffre là-haut, au troisième étage.
Si on reste sur l'Espagne, la défense centrale de l'Espagne,
En ce moment, Cubarsí fait un début de Coupe du Monde incroyable. Et ils ont pas pris un but, l'Espagne, pour l'instant. Et je vois très peu d'occasions concédées. Parce que Vega, c'est très fébrile. Pour moi, je trouve ça très fébrile. Et Ruben Dias, on est très loin du grand Ruben Dias. Donc, ça, c'est petit B. Petit B. Mais je viendrai pas, tu vois, je viendrai pas là, en avant-match, en disant l'Espagne.
Mais j'ai un petit C.
L'Espagne est en quart de finale. Ça, je ferai pas.
Le petit C de Gary, vas-y.
Le petit C, c'est que depuis le début de la compétition, ce groupe est très fort, mentalement. C'est-à-dire qu'ils se sont pris des tempêtes. Médiatique avec ce qui s'est passé avec Cristiano et le début de compétition compliqué. En plus maintenant il y a la sœur de Cristiano qui annonce que c'est sa dernière compétition avec le Portugal en avant-match.
Après on verra. Mais oui.
Mais je veux dire je dis pas que c'est une information. Je dis que dans la tempête médiatique que ça engendre et dans les prochaines conférences de presse c'est ce que tous les médias portugais vont avoir à la bouche. Est-ce que c'est la dernière compétition de Cristiano Ronaldo, etc. Donc ce groupe mentalement. Il est très fort, il est très uni. Moi, c'est ce que je disais en avant-match, on est champion du monde des conférences de presse parce que à chaque fois, Diogo Dalo, Ruben Dias, tous ces mecs-là, en conférence de presse, ils ont été béton, ils ont montré une confiance, une sérénité malgré tout l'environnement, toute l'ambiance qu'il y avait autour de ce groupe.
Oui, c'est ça. Et puis,
d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui dégage de ce groupe. Ce groupe-là,
ça sent 2016.
Les gars, chacun monte le curseur d'un cran ou deux. Ça peut être exceptionnel, hein, de Raphaël Léao.
Ils ont une confiance folle.
Pourquoi pas? Sur un Cristiano en leader.
Parce que ça me fait penser au match de Ligue des Nations très rapidement entre la France et l'Espagne. Où tu te rappelles, l'année dernière, il y avait les débats Ballon d'Or, les débats Mbappé, Yamal Dembélé, etc. Là, il y a un match-up Pedri-Vitinha.
Il y a des match-ups Nuno Mendes, Yamal. Tu vois, il y a
Nuno Mendes qui courait là.
Voilà. Non mais tu vois, il y a des trucs où il va falloir montrer qui est qui sur ce type de match. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et tu vois,
un peu comme Maroc, Maroc Pays-Bas.
Voilà. Et moi, je le sens. Voilà, c'est le derby, c'est vrai le truc. Et moi, je le sentais moins avec un Portugal RDC, Portugal Croatie.
Même Portugal Croatie.
Où en fait, ils ont tout à perdre le Portugal là aujourd'hui. En vérité, ce sera.
C'est pour nous. On est du côté du championnat d'Europe. Là, on est du côté du tableau du championnat d'Europe. C'est pour nous.
Exactement. Et ce sera. Et ce sera décevant de sortir, parce qu'il faudra voir comment tu sors. Mais en fait, ils avaient tout à perdre aujourd'hui, le Portugal.
Ça, c'est sûr.
Tout à perdre. Tout à perdre. Bon, et ce sera plus le cas.
Avant qu'on referme la page portugaise et qu'on libère Gary.
Mais j'irai pas jusque-là, parce qu'il faut quand même.
Petite parenthèse sur les Parisiens du Portugal.
Groot, ça,
on a parlé de Bruno Fernandes qui fait une énorme saison avec United. Les Parisiens qui font une énorme saison avec le PSG, deux énormes saisons avec le PSG. Qu'est-ce qu'on en pense? Pourquoi on ne les reconnaît pas? Nuno Mendes, Vitinha, Joël.
Je voulais faire un avis tranché sur les prochains jours, tu me l'as tué.
Kevin,
parce que. J'allais discuter avec Walid.
Spontané, hein, il vient de jouer le Portugal.
Non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme Ousmane Dembélé ou Désiré Doué avec l'équipe de France. C'est-à-dire que le.
Syndrome FC Nantes, syndrome Canary, je
venais le système du PSG est tellement bien huilé, où tout le monde sait ce qu'il a à faire avec et sans le ballon, qu'aujourd'hui c'est difficile pour les Parisiens dans des équipes aussi désorganisées. Ouais, Joao Neves,
c'est un peu mieux. Il fait toujours du bien.
Il se tape, mais aujourd'hui, mais ça c'est Walid qui va le faire et il le fera très bien de mettre en avant le travail de Luis Enrique. Mais c'est aussi dire que le Portugal aujourd'hui, c'est catastrophique tactiquement. Il y a rien. C'est alors on parle de Bruno Fernandes, etc. Mais c'est vas-y, on lance la balle et puis on essaye de marquer un but de plus de l'adversaire. Mais il y a pas de cheminement, il y a pas de. Et puis Bruno Fernandes, il faut lui laisser de la place, faut lui laisser tirer les coups de pied arrêtés parce que ça on l'a pas parlé ça. De l'énième coup franc laissé tirer par le Portugal à Cristiano Ronaldo qui nous met une minace dans le mur à mi hauteur. Donc en fait toutes ces choses là.
Voilà, ça dédie sur le chat sur une finale sur un duel Messi Cristiano le 19 juillet.
Ce serait clairement une des plus belles finales avec France-Argentine. Voilà, c'est France-Portugal. Ça, c'est une
belle histoire de l'histoire du football mondial, je pense.
Ah bah imagine. C'est
bah là, oui, là, c'est la
relève. Les 12 ballons d'or, finale, là, New York, MetLife.
Ça me ferait penser pour les fans de Formule 1 à l'histoire de Verstappen et Hamilton. Là.
Ouais, encore plus fort.
Une année où. Non, mais une année où en fait on a.
La Bay Arena.
Ouais, exactement.
Mais t'as raison.
Tu vois, une année où on veut l'explication, quoi.
Ouais,
on veut l'explication.
Sur le dernier tour. Le dernier tour.
Voilà, le dernier tour.
Tu te rappelles le dernier tour. Le dernier tour.
On dirait Fast and Furious 5.
Ça s'est joué, ça s'est joué. Sur le dernier
exactement,
tour où Max Verstappen a
les gars, pneus. Last Dance pour les deux etc.
Il avait les pneus. Tu voudrais qui si, hein si c'est le cas
hein
qui gagne selon toi pour toi
oh, là on en est
la
pas
fiction,
là
ah vas-y si je veux savoir
moi je le mets mal là.
Je veux savoir
alors non,
je sais ce que tu vas dire je sais ce que tu vas dire
alors moi pour le coup
politique il va dire Cristiano l'a jamais soulevé donc Cristiano
non c'est pas vrai
après ce qui est bien en fait avec Nico Jamin c'est qu'il te fait les questions et il te fait les réponses
il te laisse répondre
d'accord en fait c'est super c'est qu'en fait il pourrait faire
vas-y
non mais en fait ma réponse elle est simple c'est que moi le football de Messi me parle beaucoup plus que celui de Ronaldo maintenant
pour l'histoire tu voudrais pas avoir Ronaldo la soulever
maintenant pour l'histoire si Ronaldo est en finale avec le Portugal en étant titulaire c'est que en fait il l'aura amplement mérité avec son équipe et que l'histoire qu'il me raconterait serait extraordinaire aussi et je l'achèterais totalement.
Mais non.
Les gars, aujourd'hui Messi, moi j'ai déjà dit 2022 c'était terminé pour moi. C'est sa last dance, il a été extraordinaire, c'est ce qu'il fallait pour lui, pour ce qu'il était. C'est comme quand Roger Federer gagne à Roland Garros en 2009. Moi j'ai eu mon truc, j'ai eu mon kiff. Maintenant ce qu'il fait là, c'est pour moi c'est un prank en fait Messi. C'est une caméra cachée à cet âge-là être à ce niveau-là, mais s'il nous redonne un tournoi le même qu'en 2022, parce que moi, balle au pied, ce que fait Léo Messi par rapport à Ronaldo, ça me parle beaucoup plus. Ça me touche beaucoup plus. Maintenant, si Ronaldo, en une touche, deux touches dans la surface de réparation, il marque ses buts et il gagne une Coupe du Monde à 41 ans, si t'aimes pas ça, t'es insensible au fait au football. C'est-à-dire que t'as le Covid du football. Donc en fait, il y a un moment, il faut te mettre le coton-tige et à un moment, il faut te reposer 2-3 jours. Donc voilà.
Même 2-3 mois.
Voilà, même 2-3 mois. Mais voilà.
Excellente réponse. Tu vois, je l'avais pas anticipé. Bravo. Tu vois, je te connais pas encore assez bien.
Le Covid du
Gary,
football.
Gary. Le 8e, c'est à Dallas, 6 juillet. Là, c'est cool. C'est prime time pour l'Europe. Hein, c'est 21h. Hein, c'est pas 1h du matin comme ce soir. Donc tout le monde va pouvoir se mettre devant la télé en Espagne, au Portugal. Nous, on sera là. Ça va être extraordinaire. On en est convaincu. D'ailleurs, petite info statistique aussi. C'est la première fois que Cristiano marque un but dans un match à élimination directe de Coupe du Monde. Voilà. Il avait jamais fait. C'est son 11e but. C'était un penalty.
Et c'est aussi le joueur le plus vieux à disputer un match d'élimination directe en Coupe du Monde.
Un mot quand même de Luka Modric, les gars, qui fait un excellent match. Kevin, Je te donne la parole, parce que tu, Luka Modric, putain, c'est une statue au milieu de ton salon depuis longtemps déjà, quoi.
C'est une accointance exceptionnelle.
Ça fait mal de le voir comme ça. Il aura 41 ans en septembre. Bon, a priori, je m'engage, mais je prends pas trop de risques. C'est terminé pour lui avec la sélection. Il a été bon ce soir, il a été fair play. Il a l'image forte entre Cristiano et lui qui se salue à la fin. Voilà, là aussi, c'est l'histoire du foot.
Luka Modric, moi je l'ai dit, hein, c'est, je pense, avec Neymar, dans mon top 3 des 20 dernières années, des 15, allez, peut-être pas des 20, mais des 15 dernières années. Ah, surtout sur le football, sur le toucher, sur la carrière, sur
le personnage,
la possibilité de jouer quasiment à tous les postes du milieu.
Parce que c'est deux carrières quand même très différentes, Neymar et Modric.
Bien sûr, c'est normal.
Il y en a un,
c'est le. Non, mais là, c'est moi.
Ah, voilà, c'est toi.
C'est mon football.
C'est ce que je te dis, on rentre dans ton livre.
Dans mon football.
Il a commencé en disant mon top 3. Oui, mais Neymar, je mets Modric.
Voilà, parce qu'après, il parle d'accomplissement, etc. Je crois que c'est le cœur.
Voilà. Neymar, c'est pour le talent pur, malheureusement gâché. Et Modric, c'est pour le talent, aller justement l'inverse, où il a tiré peut-être le maximum de son talent, de sa carrière. Et pour moi, je le mets dans le top 10 de l'histoire du foot, de mon histoire du foot. C'est extraordinaire.
Dans ton livre, comme dirait,
et aujourd'hui, pour moi, je suis même pas déçu parce qu'il fait un gros match à 41 piges quasiment. Il fait un gros match.
Il est passé par plusieurs chapitres dans le match, un peu en difficulté, des fois c'est normal.
Âge, mais quand il a le ballon, c'est toujours rayonnant, c'est toujours très juste, c'est toujours très propre. Et puis ça va vers l'avant. Non, c'est bon, c'est.
On est très pour lui.
Un régal. Et je suis très content que ce soit
pour lui.
Portugal qui le sort.
Moi, attends, laisse-moi finir. En fait, avec toi, c'est pareil. En fait, tu me montes dessus, mais j'ai le droit de faire une phrase et de finir la phrase.
Excuse-moi, Nico.
C'est possible.
C'est vrai.
On est triste pour lui.
Il est temps que ça s'arrête.
Mais on se dit qu'il a beaucoup pris et donné au football également.
Oui, mais le gros problème, Nico, c'est que tu dis on et moi, je suis pas triste pour lui, donc je te coupe. Parce que moi, je suis pas triste pour lui.
Ah, Modric, c'est pas ton football, c'est pas.
Mais c'est un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. C'est le kiff absolu comme Kevin. Oui. Mais je suis pas triste pour lui. Il a 55 ans. Il y a un moment. Je suis pas triste pour lui que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il a fait 15 coupes du monde.
C'est ce que je viens de dire en fait.
Oui. Non mais non, tu dis on est. Non, je suis.
Non,
pas,
mais moi.
En fait, moi, je suis juste.
Lucas, à un moment
donné.
Ah, moi, tu peux pas.
Ça fait un peu de la peine pour lui.
Mais non. Il a pas de sensibilité. T'es le Covid du foot.
Mais non.
C'est dépouillé. Lucas Modric.
Bah très bien.
Et toi. Rien, ok, merci Lucas, et ça dégage.
Très très bien,
monsieur. Prends l'avion demain pour la Croatie, c'est fini.
Contrairement à Kevin Diaz, je préférais le Portugal-Espagne, déjà d'une, donc je suis pas triste. Et la Croatie a fait son tournoi. Luka Modric a fait une carrière gigantesque. Ça se termine. C'est très très bien pour lui. Je suis pas triste pour lui. Voilà, tout simplement.
Tu peux être triste et lui dire merde, bravo, en fait. Et être content pour le Portugal.
Bravo. Vous êtes triste de ne plus voir ce joueur sous nos yeux à la télé pour les compétitions. Le maillot d'Amiens, blanc et rouge.
J'ai eu 20 ans de Luka Modric. J'ai réussi.
Tu vas pas le regretter?
Non.
Quand tu vas voir la Croatie,
il a pas le même effet que toi.
Mais non, c'est pas, je vais pas le regretter. C'est que j'ai eu pendant 20 ans Luka Modric exceptionnel.
Okay, tu profites quoi.
C'est bon.
Dans l'acceptation, tu sais que moi,
j'aime pas après 37, après 38, après 39. Même si les mecs sont très,
toi,
très forts.
Tu préfères avant 17, ouais. Avant 18, avant 19.
Non, pas du tout. Moi, j'aime en fait, à un moment donné, le disque, c'est bon. On a vu.
Sauf Gaël Monfils.
Il a fini le jeu.
Sauf pour Gaël Monfils.
Et même Gaël Monfils, quand il joue et qu'il perd en 3-7, etc., sur des premiers tours et tout, ça me fait mal. J'ai envie de voir Gaël Monfils.
C'est mal, ce que je dis.
Bah oui, mais je suis pas triste. Je suis pas triste pour lui.
Bon, pas la nuance.
Mais non, ça me fait mal de voir les joueurs qui sont pas à leur meilleur niveau, qui continuent de s'entêter. Ça me fait ça. J'ai pas
la dernière tournée à 85 ans.
On a pas l'impression qu'il s'est pas entêté.
Non.
C'est ça.
Moi, je le dirais toujours. Pour finir sur ce chapitre, bravo à la Croatie. 4 millions d'habitants, des joueurs exceptionnels, toujours très techniques, toujours 26, 27, 40 joueurs.
Et Perisic,
de très haut niveau. Perisic, ils arrivent toujours en plus à finir leur carrière. Ils sont passés par l'Italie. Ils arrivent toujours à avoir énormément. Ben là, pour le coup, Perisic est fini aux Pays-Bas, mais voilà, c'est bravo.
Mais tu vois, s'il y a des indignités.
Bravo à ce pays-là, quand même, grand, grand pays de football.
S'il y a des indignités à sortir, parce que le fameux poncif, c'est on sort Luka Modric tout de suite, etc., sur le match, même sur la compétition, je fais envie de parler de Perisic avant Modric. Parce que Perisic, 37 ans, latéral, qui était ailier, il a mis des buts très importants depuis le début de la compétition, et on ne parle pas assez de ce que fait Perisic avec cette sélection depuis une dizaine d'années, où à chaque fois, il est décisif. La même chose sur le match, Kovacic et Susic, je les ai trouvés impressionnants. Sur la deuxième mi-temps, les mecs se régalaient au milieu de terrain et ils n'ont pas eu l'efficacité nécessaire pour faire mal.
Il est remplaçant dans ce match.
C'est parce qu'il est pas, il est pas à son meilleur niveau. De toute façon, on l'a bien vu. Bah, c'est lui qui est fautif sur Ramos. Il les a crevés en une seconde, Gvardiol. Gvardiol, c'est un joueur qui en 2022 a été très très bon aussi avec la Croatie, qui avait une énorme hype et qui quand même plutôt sur la pente descendante. En tout cas, il est pas à la hauteur des espérances.
Et petit point mode, le maillot de la Croatie, ce serait pas le un des plus beaux maillots, mais que tu n'achèteras jamais parce qu'il est trop dur à mettre.
Le maillot, oui, le maillot oui, blanc et rouge, évident.
Je préfère celui du Japon, moi, de.
Ah, extérieur, et
ouais. Ah bah regardez, ah bah regardez sur YouTube etc., est, le maillot extérieur de Nico Jamin. J'allais dire de Nico Japon.
Ouais.
Mais non mais il est beau.
Vraiment, il est très très beau.
J'ai rarement des maillots avec, mais celui-ci je l'ai vu.
Pantalon noir.
J'ai envoyé la Kichta à $150.
Ah ouais. T'as envoyé la
c'est mon craquage.
Ah c'est ton craquage.
C'est mon craquage.
Le Portugal Puma, ça va pas du tout par contre.
Ouais, non, c'est refusé.
Portugal Puma, non, c'est refusé, t'as raison. Après il ressemble beaucoup au l'Allemagne, maillot du Japon.
Ouais.
Oui.
On a des couleurs allemandes quand même. Il y a un nègre aussi. T'as compris qu'il y a quelques temps.
Après, le seul problème du maillot Japon de Nico Jamin, c'est qu'il n'y a rien de japonais en fait dans le maillot.
C'est vrai.
C'est-à-dire que, en fait, tu me dis. Mais
ça ressemble plus à un maillot de l'Allemagne.
Voilà, c'est-à-dire que c'est ça, pour le coup, il n'y a pas une identité japonaise.
Il y a les couleurs du Japon.
Ok.
Les, comme ça, multiculturelles.
D'accord.
La technologie.
Il y a une histoire.
Il y a beaucoup de. C'est un peu comme Times Square, Tokyo. Donc peut-être que c'est les couleurs de.
Peut-être, alors.
C'est vrai, t'as raison.
Peut-être, alors. Ouais.
Ah oui, il y a toujours.
Il y a une autre.
Ça s'appelle le Carrefour à Tokyo,
je
là.
Je sais pas, ça, j'ai pas.
Mais si. Shibuya.
Shibuya.
Shibuya, voilà. Shibuya.
Et tu peux manger des très bons sushis.
Tout à fait.
Des très bonnes soupes.
Gary, merci.
Merci en tout cas, Kevin.
Merci à vous, monsieur. Sur RMC continue, Gary. Tu seras sollicité, évidemment.
T'es qualifié.
C'est ça, on continue.
C'est validé, c'est validé.
Validé, exactement. L'Espagne, on sera là pour le vivre, l'avant-match, le match, l'après-match. Merci encore une fois, Gary. Pause dans
quand,
un instant.
C'est quand le match?
On parle, c'est le 6 juillet, mon cher ami.
C'est mardi, je crois.
C'est précisément...
C'est à quelle heure?
C'est le 6 juillet, 21h.
C'est le lundi
prochain, 21h, prime time.
Lundi prochain?
Ouais. T'es dans l'avion, mec.
C'est,
non.
C'est une catastrophe.
Mais non.
Il prend l'avion à 17h.
Mais non, c'est terrible.
Il prend l'avion à 17h,
voilà,
c'est horrible.
Clim. Non. Ah mais tu prends l'avion. Ah, non mais non, c'est 21h. Non, c'est 21h en France. C'est 21h en France, c'est pas 21h
ah,
ici.
Ah oui, tu prends 17h, donc ça équivaut à en fait du 11h heure locale européenne. Donc tu vas le voir.
Ah tu vas le voir, tu vas le voir, tu seras arrivé en France.
Effectivement, okay. C'est ric-rac, si ça prolonge comme dit Jimmy, t'es mort.
Mais comment ça, ce sera avant de prendre l'avion? C'est-à-dire tu vas être stressé avant de prendre l'avion? Non, mais de toute façon,
c'est ce qu'il explique en fait.
Mon fils est venu à New York et il a regardé le match.
C'est à 15h de New York.
Ah bon, il y avait la wifi.
Un wifi exceptionnel dans la
salle. Sans salle d'embarquement pendant 2 heures, voilà.
Bon bah, écoute, ça ira. On va envoyer des grands bamos.
T'es prêt à mettre $500 de wifi à JFK pour à New York pour ça?
Non, j'ai un truc illimité. Vous connaissez pas les puces, dématérialisées là, comment ça s'appelle?
Ouais, bref, les puces dématérialisées.
Les eSIM.
eSIM.
Merci Jimmy.
Ah donc t'es en train de dire vous connaissez pas les eSIM?
Bah, ouais, moi je connais pas. Toi tu connais pas les eSIM parce que t'as pris une puce.
Ah, d'accord, mais on connaît quand même les eSIM.
Ah bah je sais pas, Nico il avait pas l'air de connaître.
D'accord.
Nico, Nico de toute façon il a un forfait à $150 par mois.
Non, je vais appeler
dans le monde entier.
Contre RMC, j'ai un forfait international. On est 3 dans la boîte sur 1000 salariés. C'est un truc, c'est un statut quoi. C'est pas vrai. Allez, pause. On revient dans un instant, on part de l'Espagne avant son 8e de finale face au Portugal. Le récital Oyarzabal, on va en parler également. Est-ce que l'Espagne est lancée vers un titre mondial? Restez avec nous. Vous êtes combien sur YouTube encore à cette heure-là? Il est quelle heure là, la Walid? Il est 4h du matin.
Ouais.
Vous êtes 4300 encore avec nous. Merci d'être avec nous. À tout de suite.